Vous écoutez On lit pour vous.
Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes? Un texte de Mohana Ravindranath du New York Times, paru le 9 mars 2025 dans La Presse. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et de loin. Aux États-Unis, l'espérance de vie des femmes est d'environ 80 ans, contre environ 75 ans pour les hommes. Au Canada, elle est d'environ 84 ans chez les femmes et de 81 ans chez les hommes. Et cela est vrai, quel que soit le lieu de résidence, le revenu et d'autres facteurs. Et c'est même vrai pour la plupart des autres mammifères. C'est un phénomène très répandu dans le monde entier, qui se maintient même en cas de maladie, d'épidémie, voire de famine, explique la docteure Dina Dubal, professeure de neurologie à l'Université de Californie à San Francisco. Mais pourquoi? Les raisons sont complexes et moins bien comprises, et le fait qu'elles survivent aux hommes ne signifie pas nécessairement qu'elles vivent mieux. L'espérance de vie en bonne santé des femmes est généralement plus courte que celle des hommes, selon Bérénice Benayoun, professeure associée à l'USC, Leonard Davis School of Gerontology. Les femmes sont généralement plus fragiles physiquement que les hommes à un âge avancé. Leur risque de problèmes cardiovasculaires et d'Alzheimer est plus élevé, en particulier après la ménopause. C'est en partie parce que l'âge lui-même est un facteur de risque de ces maladies. Nuance, Madame Benayoun. Les scientifiques tentent de découvrir pourquoi les hommes et les femmes vieillissent différemment dans l'espoir de prolonger la durée de vie et la durée de vie en bonne santé des personnes des deux sexes. Si on peut comprendre ce qui rend un sexe plus résilient ou plus vulnérable, on aura de nouvelles pistes, une nouvelle compréhension moléculaire en vue de nouvelles thérapies qui pourraient améliorer la résilience de l'un ou l'autre sexe, ou des deux, estime la docteure Dubal. Voici ce que l'on sait jusqu'à présent. Génétique. La recherche suggère que l'ensemble XX des chromosomes sexuels féminins, qui, avec d'autres chromosomes, portent notre ADN, pourrait avoir un impact sur la longévité, bien que l'on ne sache pas exactement comment. Ainsi, une étude menée en 2018 par le laboratoire de Mme Dubal a examiné des souris génétiquement modifiées avec différentes combinaisons de chromosomes sexuels et d'organes reproducteurs. Celles qui avaient deux chromosomes X et des ovaires vivaient le plus longtemps, suivies des souris ayant deux chromosomes X et des testicules. Les souris ayant des chromosomes XY avaient une durée de vie plus courte. Il y avait quelque chose dans le deuxième chromosome X qui protégeait les souris d'une mort prématurée, même si elles avaient des testicules, dit Mme Dubal. Et s'il y avait quelque chose sur ce deuxième chromosome X qui était en quelque sorte une goutte de la fontaine de jouvence? Les scientifiques n'ont pas encore examiné cela chez l'homme, mais selon la docteure Dubal, le fait que nous ayons les mêmes hormones et chromosomes sexuels et des systèmes reproducteurs similaires suggère que les résultats pourraient être similaires. Les facteurs épigénétiques, éléments environnementaux ou liés au mode de vie, tels que le climat ou le stress chronique, qui ont une incidence sur l'expression des gènes, peuvent également jouer un rôle dans la durée de vie, en élargissant ou en réduisant les disparités entre les hommes et les femmes, a déclaré Montserrat Anguera, professeur de sciences biomédicales à l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Pennsylvanie. Hormones. Les chercheurs étudient aussi le rôle des hormones sexuelles, comme les œstrogènes, dans la longévité, en particulier leur effet sur le système immunitaire. Il existe des données solides montrant qu'au moins avant la ménopause, le système immunitaire féminin est meilleur, plus actif et plus en mesure de provoquer des réponses, dit Mme Benayoun. En général, les hommes réagissent bien plus mal aux infections, ce qui peut réduire leur espérance de vie. Ils sont aussi plus susceptibles que les femmes de mourir d'une septicémie, ajoute-t-elle. Une analyse réalisée en 2017 a révélé que les femmes, dont la ménopause est survenue après 50 ans, vivent plus longtemps que celles qui l'ont connue plus jeune. Lorsque les niveaux d'œstrogène chutent, comme pendant la ménopause, le système immunitaire des femmes semble s'affaiblir. Et les femmes, en moyenne, rattrapent ou dépassent les hommes en termes de susceptibilité de maladies qui étaient moins courantes avant la ménopause, précise Mme Benayoun. Mode de vie et comportement. Le comportement joue un rôle clé dans cette disparité. Moins de femmes que d'hommes fument ou boivent beaucoup. Des comportements qui augmentent fortement la mortalité, affirme Kyle Bourassa, psychologue et chercheur principal au Center for the Study of Aging and Human Development de l'Université Duke. Les femmes adoptent plus souvent des comportements favorisant la santé, comme le port de la ceinture de sécurité ou les visites médicales annuelles. Et elles socialisent plus, ce qui les protège des effets néfastes de l'isolement social et de la solitude, ajoute M. Bourassa. Une étude de 2023 a révélé qu'elles sont aussi moins susceptibles de mourir d'une surdose ou d'un suicide. Facteurs externes. À un niveau sociétal plus large, la guerre et la violence armée ont un impact disproportionné sur les hommes, affirme Naoko Muramatsu, professeure de santé communautaire à l'Université de l'Illinois à Chicago. Pendant la pandémie de COVID-19, plus d'hommes que de femmes sont morts. La recherche montre qu'ils étaient plus susceptibles d'occuper des emplois qui les exposaient au virus, comme la préparation des aliments ou la construction, ou d'être en situation d'itinérance ou incarcérés, ce qui a eu un impact sur les taux de mortalité. En fin de compte, c'est l'ensemble de ces facteurs qui déterminent l'écart de durée de vie, résume Alan Cohen, professeur de santé environnementale à la Mailman School of Public Health de l'Université Columbia. Ça s'explique probablement de mille façons. Et même si nous avons un certain contrôle sur certains facteurs, comme la consommation d'alcool, le tabagisme et l'alimentation, on ne sait pas encore dans quelle mesure la longévité serait affectée par la modification de ses comportements, souligne M. Bourassa. Ça prendra des essais contrôlés, randomisés, pour démêler tout ça, dit-il. C'était « Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes ?» Un texte de Mohana Ravindranath du New York Times, paru le 9 mars 2025 dans La Presse.
Toutes les peurs avec lesquelles les gens appellent, on les vit aussi. Être père aidant devant la haine. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 3 mars 2025 dans le magazine Fugue. Depuis la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le 5 novembre dernier, les téléphones ne dérougissent pas chez Interligne, anciennement Gay Écoute, la seule ligne de crise pan-québécoise desservant la communauté LGBTQ+. Les chiffres pour l'année 2024 ne sont pas encore comptabilisés, mais il y a eu une augmentation marquée des appels au sujet de Trump. Il y avait déjà des appels sur Trump depuis quelques années, mais ce nombre-là a drastiquement augmenté depuis son entrée au pouvoir, relate le coordonnateur des communications d'Interligne, Hello Gauthier-Lamotte. Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, le président a signé des décrets particulièrement durs à l'endroit des personnes trans et non-binaires, dont un selon lequel le gouvernement américain reconnaîtrait seulement deux genres, femmes et hommes, et un autre qui interdit le financement public des soins d'affirmation de genre pour les jeunes trans et non-binaires, quoique ce dernier a été temporairement suspendu par un juge le 13 février. Depuis l'élection américaine, les intervenants et intervenantes d'Interligne ont observé une anxiété par rapport au climat actuel, un sentiment d'incertitude devant l'avenir et une peur du recul des droits aux États-Unis, mais aussi ici, note Hello Gauthier-Lamotte. La peur à laquelle il fait référence n'est pas hypothétique. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a récemment déclaré que les mâles biologiques devraient être exclus des espaces réservés aux femmes et le gouvernement albertain a proposé une liste de changements législatifs qui pourraient potentiellement restreindre l'accès au sport scolaire et aux soins d'affirmation de genre pour les jeunes trans. Au Québec, chez les adolescents et adolescentes, l'ouverture envers les personnes LGBTQ+, a reculé pour la première fois en 2024, après 30 ans de progrès, selon un rapport du groupe de recherche et d'intervention sociale, Gris Montréal, publié en janvier. Tout comme Hello Gauthier-Lamotte, Marie Ouzeau, directrice générale du Gris Montréal, considère que le climat politique y est pour quelque chose. En tant qu'intervenante du Gris, Marie partage son vécu avec des élèves de la fin du primaire et du secondaire depuis plus de 20 ans, dans le but de combattre des préjugés. Selon elle, leurs attitudes ont évolué en diagramme de cloche. Au début, peut-être, les jeunes qui étaient plus ouverts étaient minoritaires, puis ils sont devenus majoritaires. Maintenant, il y a un retour du balancier, dit-elle. Dans les sondages remplis par les élèves et lors des périodes de questions, les intervenants ont droit à des commentaires décomplexés, tels que « je suis homophobe et c'est mon droit », et parfois violents. Évidemment, ce n'est pas tous les jeunes, mais cette évolution du climat est perceptible, observe Marie Ouzeau. Elle pointe du doigt non seulement les discours politiques, mais aussi la polarisation sur les réseaux sociaux. Forcément, ça finit par avoir un impact dans la vraie vie. Chez Aide aux trans du Québec, ATQ, qui opère une ligne d'écoute et des groupes de soutien pour des personnes trans et en questionnement, on fait un constat similaire. Cette montée de la haine s'est de plus en plus discutée, dit Kim Forgette-Desrosiers, coordonnatrice de service à l'ATQ. Il y a quelques années, Kim et ses collègues ont constaté une recrudescence de la transphobie dans les médias anglais. On s'est dit, « Mon Dieu, si ça arrive aux États-Unis, ça va certainement arriver au Canada. » Et au Canada aussi, c'est commencé. La situation présente un défi pour les trois services, quand des bénévoles surchargés décident de prendre un pas de recul et que d'autres doivent en prendre plus sur leurs épaules. Comment aide-t-on des personnes à composer avec leur peur quand on vit la même chose qu'elles? C'est le défi d'Interligne, du GRI et de l'ATQ qui offre des services par et pour la communauté LGBTQ+ et les gens en questionnement. Toutes les peurs avec lesquelles les gens appellent, les bénévoles les vivent aussi, résume Hello. Appliquer les techniques qu'on propose, ça nous aide énormément. Une des choses qu'on suggère aux intervenants et aux gens qui font appel à nous, c'est de rester informés sans trop s'informer. On n'a pas besoin de regarder les nouvelles toutes les 15 minutes. Aussi, c'est bien d'être dans l'action, mais il faut prendre des breaks, ce qui peut être différent pour chaque personne, suggère Kim. Les deux intervenants mettent aussi l'accent sur l'importance de se retrouver en communauté, entre personnes qui vivent des choses semblables. Les communautés queer et trans vont toujours continuer d'exister, même si un gouvernement n'est pas favorable à leur existence. S'impliquer dans votre communauté, ça peut être une façon de combattre ce sentiment d'impuissance, conclut Hello Gauthier-Lamotte. Info. Les services de soutien d'Interligne sont disponibles 24 heures sur 24, par téléphone et par texto, au 1-888-505-1010. La ligne d'écoute et de référence de l'ATQ est ouverte tous les jours de 9h à 21h au 1-855-909-9038. Joignez Jeunesse J'écoute, ligne de crise pour les 18 ans et moins, en appelant au 1-800-668-6868 ou en textant Parler, P-A-R-L-E-R, à 686868. Pour parler avec un conseiller en prévention du suicide, appelle 1-866-APPEL, A-P-P-E-L-L-E, en tout temps. Le site du GRI Montréal est gri.ca. C'était « Toutes les peurs avec lesquelles les gens appellent, on les vit aussi. Être père aidant devant la haine ». Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 3 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Valérie Plante réclame à Québec de moderniser le métro de Montréal avec du « fait ici ». Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la Société de transport de Montréal, STM, demandent à Québec un financement de 40 millions de dollars pour moderniser le métro de Montréal et pour remplacer les 47 trains MR73 au second rang des wagons de métro les plus vieux au monde qui circulent encore dans le réseau. Ce que nous proposons au gouvernement du Québec, c'est que les trains de la STM, ceux qui arrivent à terme dans à peu près 10 ans, soit fait ici. Pas en Inde, pas aux États-Unis, mais bien ici, à la Pocatière, a déclaré la mairesse en conférence de presse mercredi. Les plus récents trains Azur du métro de Montréal ont en partie été construits à l'usine Alstom dans la municipalité du Bas-Saint-Laurent. Dans la foulée de la guerre commerciale avec les États-Unis, Mme Plante s'est dite entièrement d'accord avec le premier ministre du Québec, François Legault, qui souhaite réaliser une grande corvée pour sortir la province de sa dépendance économique aux États-Unis. Non seulement je l'ai entendu, mais on lève la main, on est prêt. Je pense que l'on ne doit absolument pas baisser la garde, a indiqué Valérie Plante. Montréal se met à l'œuvre, assure-t-elle. On passe au peigne fin tous nos fournisseurs américains pour trouver des équivalents locaux ou internationaux. Mais on doit aussi voir plus loin que l'immédiat et trouver des façons dès maintenant de planifier l'avenir avec des entreprises d'ici. Le projet de la STM a le potentiel de créer des centaines d'emplois bien payés en région pour la prochaine décennie, a soutenu Mme Plante. Pas un luxe. Les trains MR73 arriveront à leur fin de vie en 2036, 60 ans après leur mise en service initiale. Un échéancier qui approche vite si l'on se fie à celui des derniers arrivés, les trains Azur, soutient la STM. Entre le début des études et la réception des premiers trains, 12 années se sont écoulées. Il faut commencer dès maintenant, a affirmé Valérie Plante. Il faut être transparent. La fiabilité des MR73 va affecter la qualité du service de la ligne qui déplace les Montréalais d'est en ouest, a lancé la mairesse. Ce n'est pas un luxe. On sait qu'il y a de plus en plus de pannes de service. Bien que la STM entretienne bien son matériel, quand la fin de durée de vie approche, il y a plus de risques qu'il y ait des bris ou des pannes, a-t-elle ajouté, avant d'assurer que la Ville soutient la demande de la STM d'inscrire le projet au plan québécois des infrastructures le plus rapidement possible. La STM, qui a présenté son plan de remplacement des MR16 au comité exécutif de la Ville mercredi matin, estime que la modernisation des wagons permettra un service plus confortable, fiable et fréquent. À terme, la STM estime une augmentation de capacité de 37% grâce au remplacement des MR73. C'était Valérie Plante, réclame à Québec de moderniser le métro de Montréal avec du « fait ici », un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
Comment établir les causes et les facteurs aggravants d'une collision tuant un piéton? Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 28 février 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les morts d'usagers de la route sont en baisse, à l'exception de celles de piétons. Comment établir les causes probables et les facteurs aggravants d'une collision mortelle? La professeure titulaire Marie-Claude Ouimet, de l'Université de Sherbrooke, dirige le réseau de recherche en sécurité routière. Entretien. Les policiers, les coronaires, les médias, devraient-ils évoquer les causes, ou plutôt les causes probables d'une collision? L'un des documents disponibles au coroner est le rapport de collision, appelé le rapport d'accident, rempli par les policiers. Ce rapport détaille, entre autres, des catégories intitulées causes probables et facteurs contributifs. Souvent, seul le terme « cause » est ensuite repris, que ce soit par diverses organisations gouvernementales ou dans les médias. Il semble préférable d'utiliser uniquement les termes « causes probables » et « facteurs contributifs » ou « facteurs associés » afin d'éviter toute confusion liée à l'usage du terme « cause » seul. Par ailleurs, les infractions au Code de la sécurité routière et au Code criminel commises par les usagers de la route, comme le non-respect d'un arrêt obligatoire, sont souvent considérées comme les causes probables de collision. Comment présenter les causes et les facteurs aggravants lorsqu'un piéton est mortellement heurté? Si certains facteurs associés aux collisions sont relativement faciles à identifier, d'autres le sont beaucoup moins. Par exemple, l'interprétation du feu vert est un élément qui peut jouer un rôle dans les collisions en intersection. Ce signal signifie-t-il que l'on peut traverser ou effectuer un virage sans vérifier la circulation? Il est possible que des usagers encore engagés dans l'intersection aient pris un risque, consciemment ou non. De même, certains usagers vulnérables peuvent avoir des difficultés à traverser la chaussée dans le temps imparti. En tant qu'usagers de la route, nous devrions toujours nous assurer qu'aucun autre usager n'est encore engagé dans la voie avant d'avancer, même si le feu est vert pour nous. Ce principe constitue un élément clé de la conduite préventive et de la réduction des risques de collision en intersection. L'adoption ou non de la conduite préventive mériterait considération dans les rapports de coroner, lesquels jouent un rôle important dans l'élaboration des stratégies préventives et dans certaines décisions politiques en matière de sécurité routière. Une vingtaine des quelque 200 rapports des 5 dernières années parle de la couleur foncée des vêtements comme facteur contributif des collisions. Que pensez-vous de cette observation? Les recommandations de plusieurs groupes ou organisations visant la promotion de la sécurité routière insistent sur l'importance de ne pas enfreindre le code de la sécurité routière et le code criminel, de ne pas altérer nos sens, notamment ceux de la vue et de l'ouïe, pendant nos déplacements. Et pour les usagers vulnérables, dont les piétons, de porter des vêtements clairs et des bandes réfléchissantes. Selon mon opinion, le port de vêtements foncés peut être considéré comme un facteur associé à une collision, mais il n'est certainement pas, à moins de rares exceptions, une cause probable d'une collision et encore moins sa cause. La façon de rapporter les causes probables et les facteurs associés, parfois dans une même phrase, sans faire de différence entre les deux, pourrait avoir un impact sur la compréhension des rapports. Si la couleur des vêtements des usagers vulnérables est un facteur à prendre en compte, qu'en est-il des capacités visuelles des conducteurs à repérer des piétons portant des vêtements sombres sans éléments réfléchissants? Après tout, ces vêtements sont couramment portés par une grande partie de la population piétonne et cycliste. Quels autres facteurs associés devraient être pris en compte dans l'analyse des collisions mortelles? Il y en a plusieurs, mais le vieillissement visuel mérite une attention particulière. Avec l'âge, la perception des contrastes ombre-lumière et l'adaptation à l'obscurité se détériorent, ce qui peut avoir un impact sur la perception des piétons la nuit, par exemple. Or, ces altérations sont rarement documentées dans les rapports de collision et restent souvent méconnues des conducteurs eux-mêmes et de leur entourage. Il serait pertinent d'intégrer ces éléments dans les rapports de coroner. Leurs recommandations à ce sujet pourraient permettre de mieux sensibiliser la population à la prévention des collisions et au développement de la conduite préventive. Par ailleurs, les piétons, en tant qu'usagers les plus vulnérables, ne respectent pas toujours les règles de circulation, ce qui accentue les risques. Dès lors, ne devrait-on pas davantage promouvoir une conduite préventive qui vise à anticiper les dangers et à laisser suffisamment de temps pour réagir? Réduire les vitesses et augmenter les distances intervéhiculaires sont aussi des mesures clés pour limiter les risques. C'était « Comment établir les causes et les facteurs aggravants d'une collision tuant un piéton? » Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 28 février 2025 dans Le Devoir.